France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Je crois que l'acteur devrait se sentir dans l'état de celui qui écrit, avant que la phrase soit écrite. Si la parole glisse à la surface du bavardage, elle semble alors inutile et non avenue. Mais quand l'acteur trouve en lui d'où viennent les mots, on a l'impression de ne jamais les avoir entendus. Ils nous surprennent et nous atteignent dans leur nouveauté. Une langue oubliée. Pour Claude Régis, les actrices et les acteurs sont des passeurs. Ils se mettent à nu, sans aucune pudeur, pour transmettre l'essence même du texte. Loin de la mise en scène qui transforme, met à distance, ou se sert du texte comme un simple support, l'espace théâtral sert à transmettre la nature profonde du texte, de l'esprit de l'auteur à l'esprit du spectateur. Le théâtre n'est pas fait pour créer du spectacle, pour que jaillissent des images spectaculaires, mais bien pour pousser celles et ceux présents sur le plateau et dans la salle jusqu'à l'extrême vérité. Ce langage nouveau, cette langue oubliée, comme il l'écrit en 1998 dans Espace perdu, c'est celui auquel il consacre sa carrière, dans une recherche jamais accomplie, poursuivant une vérité ineffable, presque inatteignable, qui ne se situe que dans le théâtre. Dans cet entretien de 1969, au micro de Colette Godard, extrait du Secret professionnel, force est de constater que ce rapport au comédien est apparu bien avant que Régis se décide à poser sur du papier sa théorie de la pratique théâtrale. Il se livre ici, avec l'éloquence discrète dont il a le secret, à une explication à la fois claire et complexe sur le rapport entre les comédiens et la mise en scène. Tout de suite donc, un entretien avec Claude Régis, diffusé pour la première fois le 1er juillet 1969 sur France Culture.
Colette Godard s'entretient ensuite avec le metteur en scène Claude Régis.
Claude Régis, en tant que metteur en scène, vous avez la réputation de très très bien diriger les comédiens.
J'aime beaucoup les comédiens. Je crois que c'est, pour moi, c'est pratiquement l'essentiel du spectacle. L'autre partie essentielle étant, évidemment, le texte. J'ai une immense admiration pour les comédiens parce que ce sont des gens qui doivent être complètement impudiques et qui doivent finalement révéler ce qu'ils sont eux-mêmes dans les zones les plus secrètes et qu'il faut qu'ils fassent ça en public. Alors, je pense qu'on touche à des choses, à des mécaniques et à des alchimies extrêmement fragiles, extrêmement subtiles. Tout ce travail, c'est-à-dire de garder entière leur personnalité, de garder entier ce qu'ils ressentent et en même temps de faire passer à travers eux ce que l'auteur a écrit, ce que le texte respire et renferme, et par là même le faire ressentir au public, c'est une balance extrêmement passionnante à faire fonctionner. Et quand on arrive vraiment à ce que le travail ne se voit absolument pas et à ce que on fasse directement respirer l'auteur dans la respiration du public par le truchement des acteurs et qu'on a complètement annihilé le metteur en scène, alors je crois qu'on a une chose très très belle dont on ne doit même pas se rendre compte.
Mais c'est curieux, vous cherchez donc, en faisant travailler les comédiens, à vous annihiler.
Non, je n'ai pas dit à m'annihiler. J'ai dit annihiler le metteur en scène parce que je crois que très souvent, en voulant mettre en scène, on tue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Alors, je ne veux rien faire qui tue, et je veux au contraire préparer le terrain simplement pour que la vie vraie qui est dans l'œuvre, passant à travers la vie vraie qui est dans les acteurs, atteigne la vie vraie qui est dans le public. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'atteindre justement dans le public des couches profondes et des choses qu'il ressent en lui sans souvent les avoir mis lui-même à jour, sans avoir pu les formuler ou sans savoir qu'il a ces choses en lui. Et c'est ce domaine-là que j'essaye de remuer et de faire naître. Et il y a toute une tendance actuellement à agir sur le système nerveux des gens. C'est une autre démarche, mais ça rejoint exactement ce que je cherche à faire, c'est-à-dire de toucher les gens autrement que par la compréhension, c'est-à-dire autrement que par l'intelligence, sans que l'intelligence soit exclue. Mais je crois que l'intelligence n'existe que dans la mesure où elle est mêlée à l'instinct, où elle est mêlée au système nerveux, où elle est mêlée à toutes les autres formes d'investigation et de réception dont le corps humain, qui comprend une partie animale, est muni. Et simplement, l'autre façon donc est une façon très bruyante et très gestuelle, comme on dit. Et moi, j'essaye au contraire de les violer dans une espèce de douceur ineffable.
Et silencieux, et secret.
Dans viol, il y a quand même une notion d'agressivité.
Oui, mais je crois que l'agressivité est tout le temps partout. Et spécialement dans l'amour. Je crois que l'amour est une agression.
Et vous cherchez cette agression en douceur.
Je cherche à pénétrer par l'intérieur et non pas par l'extérieur.
Mais donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous faites travailler des comédiens, que vous assistez, en somme, à cette espèce de transformation du personnage, du comédien ?
Mais, si vous voulez, pour essayer d'être clair, parce que je ne le suis pas du tout, quand j'ai dit que j'essayais de m'annihiler, c'est-à-dire d'annihiler la mise en scène, dans la mesure où elle peut représenter un obstacle, le problème qui se pose à peu près chaque fois quand on commence un travail avec des acteurs, de même c'est de les empêcher de jouer la comédie. C'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il faut en fait supprimer tout cet appareillage soi-disant théâtral qui correspond à des conventions ou à des héritages. Effectivement, tout un théâtre, disons en gros jusqu'à la guerre, mettons, je ne sais pas, jusqu'à Sartre, mettons jusqu'à Brecht, qui reposait sur une espèce de conscience sentimentale et aussi sur une sorte de morale chrétienne. Je pense que tout le théâtre moderne a une démarche complètement différente.
C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des critères différents.
Oui.
Mais lesquels ?
Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on doive le savoir. Je crois que les écrivains écrivent, les peintres peignent, les sculpteurs sculptent, les metteurs en scène mettent en scène et les acteurs jouent, et que le public vient au théâtre pour qu'il se passe là un langage qui échappe aux explications. Et je pense qu'il en va à peu près ainsi pour tout ce qui concerne le spectacle. Mais je crois qu'on peut très souvent faire parler les acteurs, les auteurs eux-mêmes, les metteurs en scène et le public pendant des heures sur un spectacle et qu'ils ne diront pas ce qui finalement fait l'essentiel du spectacle, qui est cette communication secrète, qui est une espèce d'enrichissement extraordinaire parce que dans l'état actuel de la science, qui progresse à une allure extraordinaire, qui nous impressionne et qui même nous fait peur sur le plan du monde scientifique et du monde technique, qui se développe et qui est entre les mains de spécialistes et donc qui nous échappe complètement parce que la majorité de nous sont incapables de le comprendre. Et nous sommes là avec une ignorance totale sur notre propre nature et sur notre propre connaissance en tant qu'être humain. Et je crois que les choses comme le théâtre, comme la peinture, comme la musique, sont une espèce de moyen d'investigation qui, par instinct, par une espèce de préscience aveugle, va beaucoup plus loin que ce qu'on peut expliquer et formuler.
Mais vous savez, je ne vous ai pas demandé d'expliquer comment, par quels moyens, si vous voulez, vous travaillez avec les comédiens, mais simplement de raconter ce que vous ressentez lorsque vous faites travailler des comédiens, lorsque vous êtes dans cette situation donc de communication avec d'autres êtres humains, que vous créez en plus cette situation.
Mais ça, je ne sais pas du tout ce que je ressens. C'est ce qui fait l'essence même de ce métier. Quand je montre quelque chose, c'est d'abord quelque chose que j'ai immédiatement aimé en le lisant. Et quand je dis aimé, ça veut dire que j'ai ressenti dans l'œuvre des correspondances très grandes avec moi-même. Les metteurs en scène sont toujours un peu des impuissants, ce sont des auteurs ratés, ce sont des acteurs ratés, ou des peintres ratés. Alors, ils essayent de faire une création à partir de la création des autres. Donc, je pense qu'on ne peut monter qu'une pièce qu'on aurait pu écrire si on avait eu le talent de l'écrire. Bien, alors, à partir de là, on fait ce qu'on appelle une distribution, c'est-à-dire qu'on engage un acteur pour représenter chaque personnage. Ensuite, on commence à faire des lectures. Et il y a, je ne peux pas, absolument pas dire pourquoi ni comment, mais quand un acteur lit et quand on commence à travailler et à répéter, on entend à l'intérieur de soi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste par rapport à la personnalité de l'acteur lui-même vis-à-vis de ce qu'il est en train de jouer, vis-à-vis de l'auteur, c'est-à-dire vis-à-vis du texte, et aussi vis-à-vis de ses partenaires. Et si vous voulez, c'est une comparaison vieille comme le monde et qui ne vaut pas grand-chose, mais finalement, ça ressemble peut-être plus à un travail de chef d'orchestre avec quelque chose d'un peu d'un magicien et puis quelque chose d'un sourcier. Il faut enrichir le jeu du comédien jusqu'à ce qu'on obtienne tout ce qu'on a rêvé du personnage, et ça pour chaque comédien, et ensuite il faut harmoniser les choses d'un comédien par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, en principe, quand on entend le texte d'une œuvre entière à travers des comédiens, il ne doit pas y avoir un trou, il ne doit pas y avoir une fausse note, il ne doit pas y avoir un moment où on n'ait pas un sentiment de justesse profonde et de correspondance profonde entre les différents acteurs et l'ensemble des acteurs avec le texte. Alors ça, vous dire comment on le fait, je ne sais pas.
Pour vous, la fonction du metteur en scène, c'est un petit peu d'être un Pygmalion.
Pour Pygmalion, non, parce que il ne s'agit pas de former des gens, au contraire, il s'agit de se servir de tout ce qu'ils ont déjà. Ce sont déjà des interprètes merveilleux, je veux dire qu'ils ont déjà en eux tous les dons et toutes les possibilités. Il faut simplement choisir, harmoniser, enrichir, pousser un peu là, enlever un peu ici, équilibrer. Et puis je crois aussi qu'il y a alors un autre travail qui vient après les lectures, qui est ce qu'on appelle la mise en place. Je crois que les rapports physiques entre les gens, je veux dire que la distance par exemple, il y a certains répliques qui peuvent se dire à 1m50 et qui à 3m ne veulent plus rien dire. Il y en a qui à 50 cm sont complètement fausses. Et il y a aussi, je crois, pour toucher le spectateur, la vision plastique, c'est-à-dire ce qu'il voit. Et là, je pense que notre œil a été énormément modifié par le cinéma et qu'il y a, si vous voulez, comme une notion de cadrage. Et ça nous amènerait d'ailleurs à parler aussi de la lumière. Mmh. C'est-à-dire que je conçois, si vous voulez, une mise en scène en même temps que ce travail intérieur sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a tout un travail de représentation plastique, enfin, qui est ce que l'œil voit. Et ça, je crois que de nos jours, justement, les techniques du cinéma ont rendu le spectateur beaucoup plus exigeant qu'il ne l'était par le passé. Donc, je crois je conçois une mise en scène comme une succession de plans, en fait. C'est-à-dire que chaque déplacement et chaque rapport et chaque distance qui sépare à tout instant chaque acteur doit être très exactement calculé, de même que la lumière doit être exactement juste sur eux à tout instant. Je crois qu'une lumière fausse peut faire paraître une scène fausse. Et alors, à ce moment-là, si on obtient une musique intérieure, ça, c'est le premier travail dont j'ai parlé, qui est le travail pour l'oreille, si vous voulez, et qu'ensuite, on a une représentation pour l'œil qui est très, très précise et très rigoureuse, et que l'émotion que l'œil reçoit et que l'oreille reçoit sont en même temps accordées et justes, je pense qu'on arriverait, dans le cas idéal, à une sorte de perfection. Et je crois que c'est vers quoi il faut tendre, en sachant très bien qu'on ne l'obtient pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommence. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a fini un travail, on a envie d'en faire un autre, parce qu'on a l'impression qu'on a pas réussi à atteindre ce qu'on cherche et on pense évidemment qu'on y approchera peut-être de plus près la fois suivante. Quelquefois, on s'en éloigne encore plus. Et ainsi, de travail en travail, on essaye de faire des progrès. On n'y arrive pas toujours.
Mais vous ne laissez vraiment absolument aucune place à l'improvisation.
C'est le contraire. C'est-à-dire que quand je fais répéter les acteurs, je ne fais que des improvisations. C'est-à-dire que tout le travail de répétition est pour moi un travail d'improvisation. C'est-à-dire que en ce qui me concerne, d'abord, j'improvise complètement. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai une représentation dans la tête de la pièce qui m'a permis justement d'orienter le décorateur, le choix des comédiens, la musique, si possible. Mais une fois qu'on travaille avec les comédiens sur le plateau, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et je l'improvise complètement dans l'instant, quitte à improviser autre chose le lendemain et une troisième chose le jour d'après. Et je l'improvise aussi en fonction de ce que les comédiens ressentent et ce que les comédiens ont envie de faire. Parce qu'il est certain que tout ce qui vient de l'instinct, tout ce que les comédiens trouvent eux-mêmes, est toujours beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on leur impose de l'extérieur. D'ailleurs, on ne peut rien leur imposer de l'extérieur. C'est pourquoi ce travail est très secret et très difficile. Parce que si un comédien ne fait pas une chose qu'il a acceptée profondément et qu'il ressent profondément, cette chose sera toujours fausse et mal exécutée. Il faut donc trouver le moyen, à partir de ce que l'acteur ressent, de le modifier ou de l'orienter pour qu'il rentre dans l'orchestration générale. Mais il faut se servir de cette chose essentielle qui est l'instinct de l'acteur, qui est la vie qu'il ressent. Et ça va jusqu'à même une certaine malice. Je veux dire qu'on peut très bien se servir du défaut des gens. On peut se servir de leur aspect physique. On peut se servir des rapports qu'ils ont l'un avec l'autre.
Oui, mais une fois que le spectacle est établi, il est établi. Il n'y a pas moyen d'en changer une seconde.
Il y a là toute cette improvisation du travail des répétitions qui, quelquefois même, se fait en dehors du texte. C'est-à-dire, très souvent, quand je veux faire trouver une scène ou un ton à un acteur, on improvise la scène en se servant d'un autre texte, en improvisant une situation équivalente, et justement pour trouver tout ce qui est la chair, tout ce qui est la vie de cette scène. Parce que en général, les acteurs, dans la formation classique française surtout, ont tendance à jouer ce qu'on appelle à jouer le texte. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'essentiel, c'est de dire les mots, de les dire d'une manière juste, mais que c'est ça qui compte. Et ils se précipitent sur le texte. Alors je crois que ce qui est important, c'est avant de leur faire trouver la vie intérieure. C'est pour ça qu'il arrive que dans mes mises en scène, il y ait des tas de moments silencieux. D'ailleurs, on me le reproche souvent. Mais à mon avis, c'est complètement essentiel. Parce que si on ne laisse pas de respiration, si on ne laisse pas la vie exister en dehors même du texte, le personnage n'existe pas, ne se crée pas, et la vie réelle ne peut pas exister non plus. Et alors, maintenant, en ce qui concerne la représentation, bien sûr que, extérieurement, ça a l'air très précis, et les acteurs sont toujours très exactement à la même place. D'ailleurs, comme la lumière est très précise, s'ils étaient à côté de leur place, ils seraient mal éclairés, et tout deviendrait faux. Donc, il y a une grande rigueur dans l'exécution. Seulement, vous savez que les comédiens sont des gens qui se dédoublent. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils exécutent une chose avec une très grande précision, en même temps, ils improvisent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais pour improviser, ils ont besoin justement d'une assimilation extrêmement grande. C'est-à-dire qu'un tas de choses rigoureuses soient devenues des habitudes qui sont presque une seconde nature en eux, qui devient automatique, qui les libère de tout ce genre de soucis, qui fait que justement, ils sont complètement libres de leur improvisation intérieure. Et il n'y a de vrai jeu, et la représentation tous les soirs n'est vraiment belle que si les acteurs, chaque soir, réimprovisent leur jeu. Et d'ailleurs, quand justement on a, en répétant, improvisé, c'est-à-dire joué les scènes et les choses de plusieurs manières, si un acteur, un jour, par l'instinct, car le public est là, comme une présence vivante, et certaines salles, quelquefois, amènent un acteur à changer un peu son interprétation, et son partenaire doit le ressentir et modifier son jeu en conséquence. Si vous voulez, il y a tout un accord de jeu qui peut se modifier.
Vous dites qu'il ne suffit pas de dire un texte et de le dire juste. D'un autre côté, vous cherchez la vérité, ou en tout cas une vérité des comédiens, et tout cela dans un monde totalement reconstruit et artificiel qui est celui de la scène, avec un cadre.
Oui, c'est comme toutes les autres questions, c'est une question très, très difficile parce que il faudrait savoir ce qu'on appelle la vérité. Alors, ce qui me semble en effet, c'est que je voudrais atteindre à une vérité de plus en plus rigoureuse et de plus en plus profonde. Mais je crois justement, quand vous dites que le théâtre est une vérité complètement recomposée, vous avez raison. C'est ça d'ailleurs qui est beau. Et c'est justement ça le sens de la vérité. C'est qu'on dira, si vous voulez, si les critiques de théâtre en arrivaient à leur mettre devant les yeux une pièce de théâtre qui soit aussi transposée que les sculptures de Giacometti, ils diraient sans doute qu'on a complètement raté cette mise en scène parce que les gens sont trop maigres et que d'autre part ils sont en métal. Ce qui n'empêche que quand on voit un chat ou un chien ou un homme de Giacometti, je crois justement, c'est pour ça d'ailleurs que je l'aime passionnément, c'est parce que j'ai l'impression que il est arrivé à force de recherche de la quintessence, il est arrivé vraiment à exprimer l'essentiel de quelque chose de très profond. Et on nous reproche très souvent de faire toujours la même mise en scène, que notre travail ressemble au travail précédent, que nous montons toujours le même genre de pièce. Bien, mais je voudrais faire observer que, je ne sais pas si vous connaissez toutes les toiles que Nicolas de Staël a peint sur les footballeurs, par exemple. Eh bien, c'est parce qu'à ce moment-là de sa vie, il a cherché une vérité. Et sur ça, il a fait un travail là-dessus et il a fait une dizaine de toiles qui, en fait, sont très proches les unes des autres. De même qu'il a beaucoup travaillé sur l'eau ou sur les bateaux. Et je pense qu'on atteint comme ça à une vérité essentielle, qui est une vérité profonde. Mais cette vérité n'est pas la vérité quotidienne, c'est-à-dire qu'elle prend une forme transposée. Mais justement, je crois que la transposition sert à supprimer l'accessoire de la représentation réaliste, si vous voulez, qui pour moi est une sorte d'écran. Et je pense que les gens dans leur vie font la même erreur, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous perdent leur vie en vivant dans un monde d'apparence, si vous voulez, et en se laissant prendre au piège de ce monde d'apparence. Qui sont en général des choses qui s'acquièrent par l'argent, par exemple. Et je crois que, au contraire, c'est un mot qui m'écorche la bouche, je n'ose jamais dire les artistes, mais je crois que ce sont des gens qui tournent le dos à cette réalité apparente et qui trouvent la vérité intérieure qui est justement de l'autre côté.
En somme, pour vous, le théâtre n'est ni un refuge ni une fuite en avant.
Qu'est-ce que vous appelez une fuite en avant ?
Je suppose que lorsque vous parliez de l'aspect extérieur, de ce qu'on peut acquérir avec de l'argent, c'est de cet écran, c'est ça, c'est la fuite en avant.
Oui, je suis sans doute un malade. Je pense que nous sommes tous des malades. Quand je parlais des gens qui couraient après l'argent, je pense qu'ils ont la maladie de l'argent. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, je pense que j'ai la maladie du théâtre. Et c'est une maladie tout à fait dérisoire, parce qu'on sait que de nos jours où nous vivons à une échelle internationale, la langue française est très peu parlée. La France est un tout petit point dans l'univers, puisqu'il ne faut même plus parler de terre. Et que les gens qui parlent français dans ce monde sont vraiment très restreints. Et que dans ces gens qui parlent français, et ne prenons déjà que la France, il y a une infime partie qui s'intéresse au théâtre et qui va au théâtre. Par conséquent, consacrer complètement sa vie et se donner passionnément et uniquement à une chose aussi restreinte est complètement une sorte de folie, si ça n'était pas compensé par le fait qu'on touche à quelque chose d'essentiel et que cette chose essentielle, si on la touche pour quelques spectateurs, ça vaut la peine. Je n'aime pas beaucoup la notion de théâtre engagé au sens où on l'entend d'habitude, parce que je crois que le théâtre social est une autre forme d'escroquerie, c'est une autre apparence. Mais je pense que si le théâtre a le droit d'exister, c'est parce que c'est une manière d'essayer de rentrer en contact avec cette vérité essentielle.
Vous n'avez jamais cherché à élargir le public ?
Si, chercher, c'est difficile. J'aimerais beaucoup mettre des gens dans des cars et les amener au théâtre ou leur vendre par abonnement des spectacles dont à l'avance on ignore complètement quelle sera la qualité et la réussite, je pense que c'est malhonnête. Je veux dire qu'une culture obligatoire ou mise en maison ne me paraît pas être du tout ce que je recherche.
Oui, parce qu'on n'est pas obligé, pour élargir le public, de les mettre dans des cars et de les amener de force. Il y a peut-être d'autres moyens.
Oui, enfin, jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est un peu grossier comme manière de s'exprimer, mais c'est un peu, enfin, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion.
Oui, oui.
C'est un peu ce qu'on a fait, je veux dire. On peut aller jouer dans la rue, bien sûr, mais je crois que là aussi, on a beaucoup abusé de l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire, aller jouer dans la rue ? Tout d'un coup, il y a des gens qui avaient fait du théâtre de très tôt et qui commencent à remettre ça dans leur programme pour montrer qu'ils avaient déjà pensé à faire du théâtre dans la rue. Faire du théâtre dans la rue, ce n'est peut-être pas représenter un spectacle sur un pont ou sur une péniche ou sur une place publique. Je crois que plus profondément, ça veut dire qu'il faudrait provoquer des gens qu'on rencontre sur un trottoir de telle manière qu'ils deviennent des acteurs sans s'en rendre compte, et justement de faire toucher à ces gens cette vérité essentielle dont je parle. C'est-à-dire que, en général, les gens croient justement que le théâtre est une chose entièrement factice et que la vie est une chose complètement réelle. Et je crois qu'il faut faire découvrir aux gens la vérité contraire, œuvre pour laquelle Pirandello a beaucoup fait, c'est-à-dire leur montrer que leur vie réelle est complètement fausse et que la fiction théâtrale est au contraire ce qui touche à la vérité profonde. Je dis la fiction théâtrale est pas seulement elle, enfin, toutes les recherches qui sont faites dans le domaine de l'art. Je crois que l'art sert à ça, et je crois que c'est pour ça qu'on le tolère, souvent d'ailleurs en ironisant beaucoup à son sujet. Mais je crois que toute société a toujours créé des formes d'art, et toute société les a toujours plus ou moins supportées, et en tout cas, il y a un besoin profond chez les hommes de ça, parce qu'ils sentent que c'est pour eux un moyen de toucher cette vérité essentielle. Il y a aussi cette chose tragique, mais peut-être très belle, c'est que le théâtre est une œuvre qui n'existe pas, je veux dire, dont il ne reste aucune trace.
Est-ce que c'est cet aspect fragile et somme toute morbide du théâtre qui vous fascine, vous qui disiez tout à l'heure que vous aimiez la vie ?
Morbide, je ne crois pas que ce soit morbide. Je crois que... Qu'est-ce que ça veut dire, morbide ?
En somme, vous ne souhaitez pas une vie dépourvue d'obstacles. Vous ne souhaitez pas un théâtre dépourvu d'obstacles. Vous accommodez très bien des limites même du théâtre.
Oui, je crois qu'il faut s'accommoder. Vous accommodez bien des limites de la vie.
Mais vous ne cherchez pas à les faire reculer, ces limites ?
De toutes mes forces, mais dans la limite de toutes mes forces. Mais je sais limiter.
Non, mais vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez à ce que chaque spectacle soit parfait. Or, à partir du moment où il est parfait, il est achevé, en somme, il est mort.
Non, attention, j'ai dit que je cherchais, j'ai dit que je n'y arrivais jamais.
Non, mais...
Je pense qu'il faut justement chercher pour y atteindre au plus près, mais les marges et les plages et les franges d'imperfection sont toujours là, très, très larges et très suffisantes.
Donc vous ne souhaitez pas vraiment réaliser un spectacle parfait ?
Vous savez, ça ne veut rien dire, parce que à ce moment-là, on pourrait dire qu'un spectacle parfait est un spectacle qui comporte des zones d'imperfection. Si on se mêle de faire ce métier, je crois qu'il faut avoir une très très grande exigence. Ce qui me fait beaucoup souffrir, c'est de voir des gens qui font ce métier dans l'à peu près, en étant très très rapidement contents de très peu de choses. Et je crois que c'est un métier qui exige beaucoup, je crois. Si vous voulez, on commence à être intéressant à partir du moment où on se dépasse soi-même. Dans les moments où je ne travaille pas et où j'y réfléchis, je n'ai absolument pas l'impression d'être ce qu'on appelle metteur en scène, par exemple. Et j'ai l'impression que je ne sais absolument rien faire. Et puis devant chaque pièce, une fois pendant qu'on travaille, il se met à se passer des choses, justement par la présence de tous les gens qui sont là, qui fait que tous les participants du spectacle arrivent à se dépasser eux-mêmes, et par là même, ils emmènent les spectateurs au-delà de leurs limites et de leurs frontières quotidiennes. Et c'est ça que je veux dire par une recherche de la perfection. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de bien léché, de bien propre et de bien net, de faire un ménage qui ne laisse pas de grains de poussière. Mais il s'agit d'être très exigeant. Et si on se dépasse soi-même, si on sort des limites qu'on connaît et qu'on commence à déambuler dans un territoire totalement inconnu, il est certain qu'on prend de très grands risques, mais qu'on a aussi le risque de toucher à des choses peut-être plus intéressantes.
Mais quand vous travaillez justement avec les comédiens, vous attendez qu'ils vous apportent à vous peut-être beaucoup, parce que vous choisissez toujours des personnalités très fortes, enfin, que ce soit Delphine Seyrig, Michel Bouquet, Rochefort, enfin...
Et Madeleine Renaud.
Et Madeleine Renaud.
Oui, bien sûr, c'est exactement pour ça. C'est parce que, comme je veux aller très loin, je choisis des textes difficiles. Et pour aller très loin avec des choses difficiles, il faut des instrumentistes qui soient eux-mêmes des personnalités très fortes. Et je pense que si le public vient s'asseoir dans une salle, c'est pas pour regarder ce qu'il voit autour de sa table familiale, dans sa salle à manger ou dans sa propre chambre à coucher, ou à l'hôtel quand il découche. Je pense qu'il vient justement assister à la représentation d'un autre monde, d'un monde profond, d'un monde... Je crois que nous sommes tous des mystiques, et je pense que, comme nous sommes des athées, ce mysticisme devient un besoin extrêmement profond. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut des athlètes sur la scène. Je crois qu'il faut des athlètes pour écrire.
Est-ce que vous vous considérez comme un athlète?
Ça serait idiot de le dire, mais j'essaye en tout cas de tirer le maximum de ce que je peux tirer de moi en comptant sur l'instinct et le hasard pour créer des choses que je ne saurais pas créer tout seul.
En somme, c'est un peu vous que vous cherchez, votre vérité.
C'est la seule démarche honnête, parce que je ne pense pas qu'on puisse atteindre à la vérité si on la cherche en dehors de soi-même. Mais ce que je pense, c'est qu'en la trouvant en soi-même, comme je pense que les êtres humains sont très similaires, on doit rencontrer quelque chose d'équivalent chez les autres. Si vous voulez, cette recherche de soi-même est en même temps une recherche des autres. Je ressens des choses que tout le monde ressent. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme des autruches, c'est-à-dire qui ne veulent pas voir, parce que c'est plus facile, parce qu'ils ont une espèce de peur, en fait, et qu'ils s'étourdissent dans une réalité apparente. Mais il y a un jour où la vie s'arrête. Et je pense que si on vit en oubliant le jour de sa naissance et le jour de sa mort, on rate sa vie. Je crois que vouloir vivre sans avoir le sentiment constant que nous sommes une espèce de passage, de créature tout à fait fragile et provisoire, je crois que c'est un moyen de croire à cette espèce de réalité apparente et de s'installer dedans comme une chose véritable qui nous appartiendrait. Et je crois que ça, c'est une erreur.
En somme, le théâtre est peut-être une manière pour vous d'exorciser vos peurs en les analysant?
Peut-être, mais je pense qu'on exorcise aussi la peur des autres. Jeunet a dit ça un jour, et je trouve ça tout à fait profondément vrai et très extraordinaire. Sur un plateau, les choses commencent à être intéressantes quand il s'agit de la mort ou quand il s'agit de la folie. Et j'avoue que je suis profondément de cet avis.
Et vous l'avez trouvé, la mort et la folie, dans les pièces que vous avez montées?
Toujours, oui.
Pourquoi êtes-vous fasciné par la folie? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la manière... ça représente peut-être une sorte de réalité qui est poussée à l'extrême.
Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je parlais là d'une manière de se dépasser soi-même et d'aller au-delà de quelque chose. Et je crois que la folie est l'aboutissement d'une sorte de souffrance qui, devenant intenable, reçoit cette espèce d'anesthésie naturelle qu'est la folie. Mais je crois aussi que la contemplation du monde et de mes contemporains, si on les regarde justement à travers l'apparence, fait que je crois que nous avons tous en nous la folie. Je crois qu'elle est latente, je crois qu'elle est là. On la dénomme folie quand elle prend une apparence pathologique, mais elle est partout présente, et c'est ce qui fait que la vie est quelquefois si drôle et si amusante et si passionnante et si extraordinaire et si angoissante. D'ailleurs, je crois que Shakespeare avait dit quelque chose comme ça, que la Terre était un grand théâtre et que, et que les acteurs étaient fous de ce monde. Et je crois qu'on atteint là une espèce de limite même. Je pense que, je sais pas, il y avait dans La Mente anglaise une phrase qui me hante tout le temps, c'est que je ne suis pas assez intelligente pour l'intelligence que j'ai. Eh bien, je pense qu'à tous les niveaux, nous en sommes tous là et que nous pressentons tous qu'il y a une intelligence au-delà des propres limites de notre intelligence. Et ça, je pense que ça repousse les frontières et qu'il y a un moment où ça craque. Et donc, la folie est le débouché, enfin. Et c'est une manière de passer de l'autre côté, comme la mort.
Et en somme, le théâtre présente une espèce de frontière de no man's land ou de terre marginale.
Oui, si vous voulez, oui. En dehors de l'agitation.
C'était un extrait du Secret professionnel du 1er juillet 1969, avec Claude Régis au micro de Colette Godard. Réalisation Jacques-Adrien Blondeau.